voix nue. Toute cette semaine, Judith Maillère rencontre Charles Anderlin. Ce soir, l'affaire Aldoura, un reportage qui fait le tour du monde.
Bonsoir Charles Anderlin.
Bonsoir.
Notre conversation a lieu dans les locaux des éditions Don Quichotte, maison qui a fait paraître en 2010 votre essai « Un enfant est mort ». Ce texte revient sur 10 ans de controverses autour d'une brève séquence diffusée au journal télévisé de France 2 le 30 septembre 2000, soit 2 jours après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, qui surplombe le mur des Lamentations, vestige sacré du temple vénéré dans le judaïsme. Vous commentez ce soir-là pour France 2 les premières images de l'intifada Al-Aqsa, filmées par des membres de votre équipe à travers le pays. Dans ce reportage, on assiste à l'agonie, dans les bras de son père, d'un petit garçon palestinien, victime d'un tir dont vous indiquez qu'il provient des positions israéliennes au carrefour de Netzarim à Ramallah. Cette séquence fait le tour du monde. Est-ce la première fois, Charles Anderlin, dans l'histoire de la télévision, que la mort d'un enfant est diffusée à une heure de grande audience?
Je ne sais pas si c'est la première fois, mais reprenons un peu les événements. On est jeudi, le 28 septembre, Ariel Sharon visite l'esplanade, c'était prévu, les policiers israéliens sont là, il y a quelques dizaines de jeunes militants palestiniens, il y a les députés arabes israéliens qui sont là, qui hurlent, et les choses se passent dans le calme. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, Sharon fait sa petite promenade et puis retourne. Le lendemain, vendredi, grande prière, la police israélienne ne fait aucun préparatif. Quand il y a des risques de tension sur l'esplanade, la police israélienne, par exemple, interdit aux fidèles musulmans de moins de 50 ans ou de moins de 40 ans de pénétrer. C'est aussi le matin de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Le commandant national de la police n'est plus à Jérusalem. Il y a des forces réduites, il y a des prières importantes devant, en bas, en contrebas, devant le mur des Lamentations. Et à l'issue de la prière du vendredi, dans les mosquées, à Al-Aqsa, des jeunes palestiniens vont balancer des pierres en direction des fidèles juifs qui sont en contrebas devant le mur des Lamentations. Les policiers montent sur l'entrée. Le commandant de la police de Jérusalem prend une pierre sur la tête, s'évanouit, et la rumeur court qu'il est sérieusement blessé. Ça a été diffusé par la radio israélienne. Et les officiers sur place perdent le contrôle de leurs hommes et il y a des tirs à balles réelles sur les jeunes lanceurs de pierres, mais qui sont devant les fidèles. Les fidèles musulmans sont blessés. Il y a 6 morts. Moi, je suis en train de faire des courses. J'apprends que ça va très mal. Je ne pensais pas qu'il s'est arrivé quelque chose. La veille, ça s'était bien passé avec Sharon. Je fais monter l'équipe de tournage qui est à Tel Aviv. Ils mettent 45 minutes, 1 heure pour arriver. On arrive sur l'esplanade et on a encore le temps de filmer des officiers en train de courir derrière les policiers pour leur dire « tirez plus, tirez plus ». Il y a 6 morts. Je vois sur la colline en face, sur le Mont des Oliviers, je vois de la fumée. On va filmer, c'est une ambulance israélienne incendiée par des manifestants. Ça pète partout. Il y a des jets de pierre. Tout incident sanglant comme celui-là dans le troisième lieu saint de l'islam produit des émeutes dans la région. Lendemain, samedi, fête juive ou pas, tout le monde est sur le pont à France 2 comme à TF1, comme à CNN, comme partout ailleurs. On met nos caméramans en place. Moi, je vais filmer à Ramallah où j'assiste au premier tir à balles réelles sur des manifestants. Ramallah, je crois qu'il y a eu 2 morts. Et je reçois un coup de fil à un moment donné de mon caméraman à Gaza, Talal Abou Rahmé, dont j'ai parlé, je crois, au cours d'une de nos émissions. Et il me dit, je filme la mort d'un gosse. Ah bon? Où tu es? Ben, je suis derrière une camionnette et devant moi, il y a un père et son fils qui sont la cible de tir. D'abord, je lui dis, est-ce que tu as mis ton gilet pare-balles? Il me dit non, je l'engueule. Il me dit, m'engueule pas, je suis sous le feu. Et on entend effectivement au téléphone, au portable, des tirs et on entend des sifflements de balles réelles. Et il me dit, écoute, je lui dis, écoute, appelle-moi dès que tu sors. Et il m'appelle, je crois, une demi-heure, une heure après, j'ai absolument perdu le fil du temps. Vous savez, quand on est sous le feu, on ne commence pas à écrire comme un huissier, à telle heure ceci, à telle heure cela. Et il m'appelle, ça y est, je suis sorti, mais j'ai perdu le trépied. Ah bon, et puis alors, tes images, bah écoute, je me dis, je crois qu'elles sont fortes. C'est le gosse, j'ai rien pu faire, je crois que le gosse est mort. Bon, je rentre au bureau, je récupère mes images de Bethléem, mes images de Hébron, les images que j'ai tournées avec mon équipe israélienne à Ramallah, avec interview de Marwan Barghouti, le chef du Fatah. L'équipe israélienne va encore filmer quelques images de bagarres à l'entrée de Bethléem. Et je reçois les images de Gaza. Et puis effectivement, on voit ces scènes d'un gosse à côté de son père. Il hurle de peur. Après, au fur et à mesure, on voit que c'est la fin. Il faut dire qu'il ne faisait pas de doute, il ne fait toujours absolument aucun doute pour moi de la réalité de ces images. D'abord, Talal Abou Rahmé est un grand professionnel de la télé, qui est d'une fiabilité absolue. Et puis surtout, l'endroit où ça s'est passé, je connaissais cet endroit parfaitement. J'avais déjà assisté à des accrochages israélo-palestiniens, à ce croisement, c'est le croisement de Netzarim, au cœur de la bande de Gaza, une petite route menant à une colonie, et puis c'est la route principale qui va du nord au sud de la bande de Gaza. Je connais l'endroit, je sais que de ce côté-ci, du côté du mur où se trouvaient le père et son enfant, il ne pouvait pas y avoir de tireurs palestiniens tirant sur l'enfant. Ou alors les balles font boomerang. Donc
évidemment, vous êtes persuadé de l'authenticité de ces images, bien entendu. Mais la première question qui peut se poser, c'est peut-on diffuser ces images violentes à la télévision à une heure de grande audience?
Bah écoutez, ça fait partie de la charte d'éthique de France Télévisions. Il y a une hiérarchie, je regarde. Pour moi, c'est diffusable et je crois qu'il faut le diffuser parce que je savais qu'en cas de soulèvement palestinien, l'armée israélienne avait l'intention de mettre en place une opération intitulée Champ de Ronces. Ça datait d'une autre histoire qui avait lieu en 96, où pour la première fois, des policiers palestiniens avaient riposté par le feu à des tirs de l'armée israélienne. Et j'étais persuadé que tout cela allait se terminer par des batailles rangées, ce qui effectivement a eu lieu. Donc pour moi, il était important de montrer l'utilisation des tirs à balles réelles, et puis le fait qu'une fois de plus, on a des enfants, et puis l'image parlait d'elle-même. La hiérarchie du journal a vu les images et a décidé de les passer. Entre-temps, au moment du transfert des images de Gaza à Jérusalem, depuis un studio de Gaza et puis le studio à Jérusalem, tout le monde savait que j'avais ces images et qu'elles allaient être diffusées par France 2. Et j'ai eu tout de suite les chaînes avec qui j'avais des accords qui me demandent « tu me donnes les images ». Et j'ai dit « oui, mais vous ne les donnez pas à d'autres chaînes françaises ». Donc ça s'est passé sur les agences, Associated Press, Reuters, l'AFP est venu prendre des photos, tout cela avec l'autorisation et bien entendu tout à fait gratuitement. CNN, le patron n'était pas au bureau, donc ils n'ont pas pris la responsabilité de la diffuser tout de suite. Ils ont traîné un peu et ils ont eu des problèmes avec leurs téléspectateurs parce que toutes les autres chaînes avaient ces images, des images très fortes. Le lendemain matin, vu l'impact de ces images, je demande à Talal, à mon caméraman, d'aller à l'hôpital et de filmer tout ce qu'il peut. Les blessures, qui fait quoi, interview de médecins, les médecins expliquent quelles sont les blessures du père, nous montrent les radios, on interviewe le père, on filme les pansements. Qui par la suite, on nous dira que c'est du maquillage.
Mais vous étiez déjà méfiant, Charles Anderlin, pour avoir envoyé votre caméra.
Je suis toujours méfiant.
C'est-à-dire, vous doutiez que cette séquence pourrait vous être reprochée.
L'armée israélienne et les autorités ont toujours fait la guerre aux images qui ne leur plaisent pas. Si vous permettez, je reviens en arrière en 96. Je suis en train d'interviewer Mahmoud Abbas, numéro 2. Quelqu'un rentre dans le bureau et me dit, il y a une bagarre à l'entrée de Ramallah. On va voir. Je suis du côté manifestant avec une équipe israélienne. On voit des dizaines et des dizaines de mômes qui lancent des pierres. En face, l'armée israélienne tient tactiquement la situation bien en main, avec des tireurs en hauteur de chaque côté, des tireurs couchés sur la rue, et je fais mon plateau au milieu des lanceurs de pierres. Et tout à coup, j'entends à côté de mon oreille le sifflement caractéristique des tirs à balles réelles. Ça, c'est les Israéliens qui veulent que je m'en aille. Et je vois les policiers palestiniens très nerveux, les mômes palestiniens qui tombent au fur et à mesure, touchés en général par des balles caoutchoutées, mais je vois aussi des blessures par balles réelles, et je vois les policiers palestiniens très nerveux saisir leur Kalachnikov. Et je dis à mon équipe, on s'en va, ici va y avoir une bataille rangée. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Et pendant des mois et des mois, j'avais une grande discussion avec le porte-parole de l'armée, qui était en plus quelqu'un que je connaissais bien, en lui disant, c'est l'armée israélienne qui a ouvert les tirs, les premiers, ouvert le feu. Il me dit, c'est pas vrai, c'est les Palestiniens. Cela jusqu'au jour où je suis tombé sur un ancien numéro 2 du Shin Bet, la sécurité intérieure. Je me demande, qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Il me dit, oui, j'étais du côté israélien avec un général. Je lui ai dit, faut arrêter les tirs israélien parce que les Palestiniens vont riposter et tout va s'embraser, et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai interviewé ce numéro 2 du Shin Bet qui est dans un de mes films, où il dit devant la caméra, les soldats tiraient sur les jeunes Palestiniens comme on tire au canard. Et c'est la preuve que j'avais raison. Donc sachant par avance que pour chaque image forte qui ne fait pas l'affaire des autorités de l'armée israélienne, les autorités lui feront la guerre. Donc dès le lendemain, en plus c'est devenu une histoire mondiale, j'ai un coup de fil d'un copain qui était à Los Angeles et qui dans la nuit me téléphone pour me dire « ta photo fait, la photo du petit Mohamed fait toute la page d'ouverture du Los Angeles Times ». Donc je commence tout de suite à me méfier, on filme tout. J'apprends que le père, après que les chirurgiens de l'hôpital Shifa à Gaza lui a sauvé la vie, sur ordre du roi Abdallah de Jordanie, il est conduit le jour même, c'est-à-dire le 1er octobre, il est conduit à l'hôpital militaire d'Aman en Jordanie, où d'ailleurs on a l'image du roi Abdallah qui vient lui rendre visite, et on a des journalistes israéliens qui sont allés le voir.
Alors, dès sa diffusion, on l'a dit, Charles Anderlin, ce reportage suscite la polémique, au point que l'authenticité des images...
Non, l'authenticité a été mise en doute plus tard, lorsque, effectivement, toute une technique d'utilisation de la théorie du complot a été mise en place.
Mais est-ce que vous imaginiez que ça pourrait prendre de telles proportions?
Non. Je savais qu'on allait m'attaquer, qu'on allait attaquer l'image, mais que cela devienne une telle histoire, et surtout que les autorités d'un État utilisent la théorie du complot pour faire une guerre à l'image, ça m'a assez surpris, d'autant plus que ça a duré pratiquement jusqu'en 2013. La première réaction des Israéliens, des autorités, oui, c'est probablement nous. Effectivement, c'est possible, j'ai des réactions d'officiers supérieurs, d'un général, oui, c'est probablement nous, les soldats, croyant qu'il y a une menace derrière le tonneau, ont ouvert le feu. Et puis, j'ai oublié. On s'est plus occupé de tout ça, deux sujets par jour, le sang coule tout le temps, il y a des véritables combats. Et puis alors, un mois et demi plus tard, je commence à recevoir des coups de fil un peu curieux d'un gars qui me demande pour des écoles de journalisme toutes les images. Vous me faites une lettre en bonne et due forme, vous demandez au service juridique à France 2, si vous n'êtes pas une agence avec qui... ou une chaîne de télévision avec qui nous avons des accords d'échange de matériel, j'ai filmé ceci, je te le donne, tu me donnes ce que tu as filmé. Tout élément extérieur, ça se passe par un processus bien défini. Et là, j'apprends tout à coup que c'est un ingénieur israélien qui travaille avec le général commandant le secteur de Gaza, ayant pour mission de montrer que les tirs ne venaient pas de l'armée israélienne. Entre-temps, bien entendu, nous avons demandé à l'armée israélienne de nous laisser filmer à l'intérieur de la position. Ça a été refusé. On a demandé l'autorisation d'interviewer les militaires. Il y en avait à peu près une trentaine dedans, de ce côté, de l'autre côté de la rue. La réponse a été refusée. Puis je commence à avoir des demandes du porte-parole de l'armée, à qui je réponds, écoutez, nous on ne donne pas notre matériel. Si vous voulez vraiment faire une enquête, comme je commence à avoir des rumeurs, il n'y a aucun problème. Nous sommes prêts à une enquête en bonne et due forme, à condition que cela se passe selon les critères internationaux. C'est-à-dire indépendante, et tout le monde viendra témoigner. Pas seulement France 2 et son caméraman, mais tous les soldats qui sont dans la position. Hein, allez savoir qui a ouvert le feu. Et puis, plus rien. Le général Yom Tov Samia, commandant le secteur, fait une conférence de presse, je crois que c'était début novembre, et c'est assez bizarre, il conclut que la probabilité que l'enfant ait été tué par des balles palestiniennes est beaucoup plus forte que la probabilité qu'il aurait été tué par des balles israéliennes. Et il y a des choses curieuses. On n'aura jamais donné de vidéo, hein. Ils ont récupéré visiblement des vidéos quelque part, et il montre sur l'écran des flashs de balles qui viendraient de derrière. Attendez, avec une caméra de reportage, on ne peut pas filmer une balle en vol. Ça marche pas. Et puis alors en plus, voilà. Et puis nous montre quelques images de drones. Mais curieusement, ça s'arrête au moment où on s'approche de la position où s'est déroulé l'incident avec Mohamed et son père. Je fais un premier sujet en donnant la version dans le 20h. Le lendemain, dans le 20h, deuxième sujet en critiquant et en donnant notre version à la conférence de presse du général Samia. Silence radio, plus rien. On travaille, on a des milliers de cassettes, des milliers de choses qui arrivent. Et puis franchement, je ne fais pas attention, je n'imagine pas que je devrais avoir un huissier dans le bureau pour inscrire et enregistrer chaque image qui arrive, etc. L'année suivante, je commence à avoir des échos à Paris, et puis il y a une conférence de presse de personnalités de la communauté juive qui annonce, écoutez, la couverture du conflit est scandaleuse, Israël est injustement attaqué. D'ailleurs, la mort du petit Mohamed, il a été prouvé par une enquête en Israël que c'est pas les Israéliens qui l'ont tué, mais les Palestiniens. C'est-à-dire que la probabilité définie par Yom Tov Samia, par le général, est devenue maintenant pour certains une certitude. Il commence à y avoir une campagne sur le web, assez violente.
Une campagne contre vous, Charles Landerlin.
Contre moi, contre France 2.
Des attaques ad hominem, c'est pas oui. seulement une remise en cause.
Oui, tout à fait. Il y a eu aussi des attaques, des menaces de mort à la maison. Pendant presque un an, quand mon épouse sortait le matin, il y avait quand même quelqu'un qui était là avec une société de gardiennage pour surveiller quand Daniel et les gosses partaient à l'école. Daniel a été agressé dans la rue par des originaires de France qui lui ont expliqué « Quittez le quartier, vous n'êtes plus en sécurité ici ». On a déposé plainte. Le gars, finalement, on l'a repéré. Il a été très surpris lorsque j'ai réussi à le faire virer de la garde civile israélienne parce qu'il montrait une carte de presse de policier volontaire. Ça s'est développé. Finalement, Arlette Chabot a décidé de porter plainte.
Alors, je vous arrête, mais comment vous vivez cette période, Charles Landerlin ?
Écoutez, on vit. il faut à la fois travailler, à la fois faire son boulot au quotidien, et puis ignorer tout ce qui se passe à côté. Pour moi, écoutez, j'ai déjà eu droit à des critiques, à des attaques, que ce soit quand j'étais à la radio israélienne ou quand j'ai commencé à faire de la télé, le diplôme de juif qui a la haine de soi, très classique, m'était déjà décerné. Là, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. La question se posait surtout pour les enfants. Notre fille qui était au lycée musical de Jérusalem et avant dans une grande école primaire et un collège de Jérusalem a eu quelques problèmes en classe. Ça s'est réglé via l'inspection régionale. Lorsque elle a passé un bac israélien, mais avec notamment en langue vivante, en plus de l'anglais et de l'arabe, elle a eu le français et l'examinatrice en français. Ah bon, tu es la fille du journaliste Charles Anderlin. Et ça s'est très mal passé. Nous avons aussi protesté. Notre fils, qui est un peu plus baraqué, ça se passait mieux dans son école et dans son lycée. Tu as un problème contre mon père, ben voilà, tu peux y aller. Et puis finalement, on l'a expliqué à nos enfants. Écoutez, si vous avez des gosses ou des gens ou des familles ou quelqu'un qui vous dit quelque chose, eh ben voilà le numéro de téléphone de mon père. Allez lui parler. J'ai eu très peu de coups de fil.
Par ailleurs, Charles Anderlin, vous parliez de votre direction parce que pendant tout au long des années 2000, vous êtes en proie à la justice parce que vous avez déposé plainte et vous êtes soutenu non seulement par votre direction, mais par vos confrères en France et à l'international.
J'ai un soutien total de la direction, de la présidence, de France Télévisions, des sociétés de journalistes, des syndicats. Finalement, j'ai peut-être un peu regretté, on ne savait pas comment ça allait se terminer, on a gagné 2-3 procès, et puis le troisième, on est allé jusqu'en appel, et en appel, surprise. Le gars qu'on attaquait est relaxé. Et là, c'était en 2008, je crois.
Vous l'attaquiez pour quel motif exactement ?
Diffamation, il affirmait que c'était une mise en scène. On n'avait pas, moi, à mon avis, je crois qu'on n'avait pas compris que ce qu'il cherchait, c'était se faire de la publicité. C'est devenu pour lui un véritable business. Et puis ça a marché, d'ailleurs, conférence dans le monde entier, l'imposture de l'affaire du petit Mohamed, je vous prouve que. On a attendu 4 ans la décision de la Cour de cassation, qui a fini par casser ce jugement en appel. On est retourné devant une nouvelle cour d'appel et on a gagné. Le gars a reçu une forte amende. Cela dit, l'idée que c'est une mise en scène est fortement implantée dans le public israélien et dans une grande partie, à mon avis, de la communauté juive en France et ailleurs.
Et vous disiez à l'instant, Charles Anderlin, que vous avez peut-être des regrets par rapport
Oui, d'avoir été au procès, parce que finalement, les gens, en nous diffamant, voulaient qu'on les attaque pour se faire de la publicité, et même s'ils perdaient, c'était eux les victimes. On a perdu contre la grande chaîne de télévision qu'on veut combattre. Les juges n'ont pas voulu entendre nos arguments parce qu'on avait en face de nous Anderlin et la machine France Télévisions. Donc, dans leur camp, la droite nationaliste dans la communauté juive et en Israël, la quasi-totalité du public israélien, encore une fois, sont persuadés que l'enfant, le petit Mohamed, vend des tomates au marché de Gaza, qu'il est vivant. En 2013, alors qu'on attendait le deuxième jugement en appel, un rapport ministériel israélien est publié, m'attaquant nommément et disant qu'au moment où j'annonçais que le gosse a été tué devant la position israélienne, je n'avais aucune preuve pour le dire et donc que j'aurais fait une faute professionnelle grave. C'était 15 jours avant la publication du jugement. Il était évident que là, on avait une véritable tentative des autorités israéliennes d'influencer la justice française. On a gagné. Vous savez, il y a eu également en 2009 un appel déposé devant la Haute Cour de justice israélienne par une association d'avocats qui demandait que l'on me retire ma carte de presse israélienne pour avoir diffusé une mise en scène qui a servi à l'assassinat du journaliste de Daniel Pearl au Pakistan, etc. On est allé devant la Cour suprême israélienne. J'ai été soutenu par l'équivalent israélien du CSA, par l'association de la presse étrangère. On a expliqué qu'on est prêt à une enquête. Pas des enquêtes pseudo faites par telle organisation juive en France ou aux États-Unis ou une combine de l'armée israélienne. On fait une enquête selon les critères judiciaires israéliens, avec des enquêteurs indépendants, et tout le monde se présente devant la justice. Eh bien, la haute cour israélienne nous a donné raison.
Charles Anderlin, au bout de 10 ans, vous décidez de faire un livre à partir de toute cette affaire, « Un enfant est mort », publié aux éditions Don Quichotte. Et en 2009, vous recevez la Légion d'honneur. Est-ce qu'il y a un lien avec toute cette affaire, d'après vous ?
Écoutez, ça, il faut le demander à ceux qui ont décidé de me la donner. Maintenant, en tant que journaliste, j'ai quand même eu quelques hésitations. Normalement, on ne reçoit pas la Légion d'honneur. La Légion d'honneur ne se demande pas, ne se refuse pas et ne se porte pas. On a fait une grande fête lorsque je l'ai reçue au consulat général à Jérusalem. Il y a eu un communiqué de certaines organisations juives regrettant que Anderlin ait la Légion d'honneur. Il y a des messages textos qui ont circulé dans la communauté, dont un particulier qui disait « Oh là là, la clémence pour les complices de Fofana et la Légion d'honneur pour Anderlin, sale journée pour la communauté juive ». Je raconte ça sans autre commentaire.
Est-ce que 15 ans après les faits, Charles Anderlin, vous considérez cette affaire comme classée ?
Moi, oui, les autres, non.
Mais est-ce que ça a changé votre manière de travailler et de vivre, peut-être ?
Non. Non, en tout cas, pour le travail, certainement pas. J'ai continué à faire des livres, des films. Toutes les sources ont continué à me recevoir, y compris parmi les sionistes religieux. Et pour mon dernier film, j'ai pu interviewer des gens qui, par ailleurs, se considèrent comme mes ennemis personnels.
Merci Charles Anderlin. À
Merci.
Demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Judith Maier avec Charles Anderlin. À voix nue, attachée de production Claire Poinsignon, prise de son Cédric Audra, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.